On aurait aimé, je dois le dire, que Pierre Alfandéry, avec lequel on avait commencé notre carrière à l'Institut de la Recherche Agronomique, ait écrit les deux livres dont tu viens de parler, soit là. Il n'a pas pu être là, il n'a pas pu participer à la rédaction de ce travail pour diverses raisons, et il a par contre suivi notre travail, relu les différentes étapes. Et d'une certaine façon, même si on est les deux co-auteurs sur la couverture, c'est un livre au fond à trois et qui fait la synthèse de 30 à 40 ans de réflexion, de travaux sur le terrain, comme on dit, ou en tout cas auprès des paysans, et en même temps, qui est en même temps un travail effectivement de réflexion, d'analyse générale. Alors, je vais commencer donc par faire ce tour d'horizon, et puis Yves reprendra par la suite un certain nombre de points qui lui paraissent plus ou moins essentiels ou que moi j'aurais manqué au travers de ma présentation. Je voudrais d'abord revenir sur les raisons pour lesquelles on s'est engagé dans l'écriture donc du sacrifice des paysans et de ce troisième ouvrage, cette synthèse. Première raison que je viens d'évoquer très vite, c'est une longue histoire en fait amicale, de connivence intellectuelle et politique qui s'est jamais véritablement démentie malgré quelques désaccords ponctuels. Donc voilà, une histoire d'amitié et de connivence intellectuelle et politique que nous avons depuis 30 ou 40 ans. Deuxième raison, c'est au fond une même conception du métier d'universitaire ou de chercheur qui a toujours été très éloignée, voire diamétralement opposée à l'enfermement disciplinaire, à l'ultra-spécialisation, à la manie de la quantification ou de la méthodologie. Bref, tout ce que nous avons vu au cours de ces 30 à 40 dernières années transformer la recherche en une simple ingénierie et, au fond, nourrir cette fameuse tyrannie de la supposée excellence scientifique qui s'est développée au cours des dernières décennies. Avec, pour dire les choses clairement, aussi la complicité passive ou active de nombre de nos collègues, qu'ils soient anciens ou plus jeunes. Pour nous, pour Yves ou Pierre ou moi, on a refusé en fait assez largement cette évolution et on a préféré rester fidèle à une sociologie anthropologique, générale, critique, qui s'éloigne des colloques entre soi, en fait, et qui s'efforce d'être toujours le plus possible en prise avec les mouvements sociaux. Ce qui nous a conduit, par exemple, à accorder, dès les années 70 et surtout dans les années 80, une attention toute particulière aux mouvements paysans, la FNSP, la CNSTP et autres, qui allaient bientôt se fédérer, les paysans travailleurs, etc., qui allaient bientôt se fédérer et créer en 87 la Confédération paysanne, où nous étions lors du congrès de création. Voilà une première raison. Deuxième raison qui nous a incité à écrire ce livre, c'est une profonde inquiétude et une profonde opposition aussi face à la dynamique du capitalisme productiviste. Personne ne peut aujourd'hui ignorer que cette dynamique s'accélère, touche tous les secteurs économiques, milieux professionnels, sociaux, et engendre d'innombrables méfaits écologiques, sanitaires, esthétiques, politiques, sociaux ou humains. Et le plus inquiétant, à nos yeux, aux yeux, à mon avis, de beaucoup de gens, c'est que pour l'instant, rien, ni les combats classiques contre l'ordre néolibéral, combats classiques, j'entends combats politiques, combats syndicaux, comme on vient de vivre au travers notamment du mouvement contre la loi travail, ni les initiatives disons, la multiplication des initiatives récentes dites alternatives, citoyennes, durables, de proximité, etc., ne paraît en fait en mesure, rien ne paraît en mesure d'enrayer cette dynamique ou productiviste, capitaliste, ou simplement de la discipliner. Et pour nous, la disparition des paysans et des sociétés rurales au sein desquelles ils vivaient et dont ils constituaient le socle, qui est déjà évidente dans les pays développés, et qui, je rappelle juste un chiffre, il y a eu une division par... enfin, il représente en gros une division par 10 en une cinquantaine d'années, et il ne représente plus que 2 à 3% de la population active, et ailleurs, dans les pays dits non développés, ou en voie de développement, ou émergents, la division est aussi apocalyptique, puisque la population agricole active était dans les années 50 au niveau mondial autour de 80% de la population active, la population paysanne, et maintenant on en est à 40%, ce qui veut dire que ça a été divisé en gros par deux en une cinquantaine d'années. Et donc pour nous, cette disparition des paysans, c'est là le sens même du titre et de l'entreprise qu'on en a voulu faire, c'est l'une des principales manifestations de cette dynamique du productivisme capitaliste, voire sa pierre angulaire. Et en même temps, de façon assez paradoxale, cette disparition, c'est aussi un impensé, un point aveugle, un impensé de la culture et de la politique, dont, pour prendre un exemple tout récent que l'on vit à l'heure actuelle, dont la quasi-absence, enfin l'absence quasi-totale de la question paysanne qui devrait être centrale dans la campagne présidentielle, par exemple, que nous vivons, force est de constater que ce n'est pas du tout le cas. Et donc cette impensée, au fond, essayer d'éclairer cette impensée, de penser cette impensée qu'est la question paysanne, ce point aveugle de la culture, c'est ce qu'on s'est efforcé, ça résume au fond tout le projet du sacrifice des paysans. Dernière raison pour laquelle on s'est engagé dans ce travail, il y a une partie toujours d'opportunité, d'occasion en fait, c'est qu'il y a eu une rencontre avec un éditeur qui est L'Échappé, qui est pour lequel Yves avait écrit un livre précédent qui s'appelle L'Université en miettes, dont vous avez peut-être entendu parler, et donc l'éditeur a proposé à Yves, et puis Yves en a parlé, enfin voilà, on a essayé d'associer Pierre aussi, Alfandéry, d'écrire un livre sur ce qui était notre sujet de prédilection, à savoir la question agricole et paysanne. Et on était tout à fait en phase, en fait, avec cet éditeur, pour lequel qui a un positionnement, disons, critique plutôt à gauche, voire à l'extrême gauche, et un catalogue tout à fait intéressant que je vous invite à regarder, notamment sur la critique des technosciences. Voilà, c'est un peu les trois raisons ou quatre raisons pour lesquelles on s'est engagé. Alors, avant de vous présenter les principales thèses qu'on défend dans ce livre, je vais d'abord dire ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un ouvrage au sens classique de courant du terme de politique agricole. Bien sûr, vous allez y retrouver nombre de développements sur le pouvoir des multinationales, enfin de la semence, comme on dit aujourd'hui, de la semence à l'assiette des multinationales de l'agroalimentaire, sur les impasses et les inégalités engendrées par la politique agricole commune, sur la cogestion, sur l'histoire de la cogestion de l'agriculture depuis la corporation paysanne jusqu'à le couple, la cogestion avec le couple FNSEA, jeunes agriculteurs, et la poursuite de l'industrialisation de l'agriculture qu'incarne très bien l'actuel président de la FNSEA, Xavier Belin, qui est aussi responsable d'une firme agroalimentaire qui s'appelle Sophie Protéol. Voilà, et donc tout, aussi donc toute une réflexion sur aussi la paupérisation grandissante dans les campagnes, et notamment d'une part des agriculteurs, une part croissante des agriculteurs intensifs. Je ne sais pas, peut-être vous avez entendu parler d'un récent rapport de la Mutualité sociale agricole qui estimait que un tiers des agriculteurs aujourd'hui tiraient de leurs revenus moins de 350 euros par mois. Vous lirez aussi dans ce texte, ce livre, des éléments sur le désert social qui est désormais très solidement installé dans certaines régions, ou bien à l'inverse, des éléments sur ces initiatives, ces alternatives au productivisme qui se multiplient autour de l'agriculture paysanne, autour de l'agriculture biologique, l'agroécologie, les circuits courts, les AMAP, etc. Mais ce que nous avons voulu faire, nous, dans cet ouvrage, peut-être plus et mieux, je dirais, que dans les précédents, en tous les cas dans les champs du départ, c'est réinscrire tous ces éléments dans un questionnement plus large, d'ensemble, sur les raisons anthropologiques, sociales et politiques pour lesquelles les sociétés modernes, ou qui se prétendent telles, font disparaître les paysans. Et en fait, la question qu'on a voulu traiter, pour la résumer, c'est celle-ci. Pourquoi la modernité, capitaliste en l'espèce, puisqu'elle a pratiquement totalement triomphé, mais on fait aussi des retours sur les régimes anciennement communistes, ou mélange des deux, l'exemple chinois étant tout à fait évident, pourquoi la modernité liquide-t-elle les paysans, soit en les transformant en agriculteurs productivistes, soit en les éliminant violemment, par exemple au travers de guerres ou de catastrophes, ou bien encore, et j'emploierai les mettrai des guillemets, pacifiquement, en les éliminant pacifiquement, via ce qu'on appelle très pudiquement, et qui est beaucoup plus un phénomène beaucoup plus brutal en réalité, ce qu'on appelle la reconversion vers d'autres milieux socio-professionnels. Chose qui est encore en cours, naturellement, aujourd'hui, et qu'un plan récent datant du 4 octobre par le gouvernement actuel incite à cette énième reconversion et donc élimination. Et la question en retour qu'on s'est posée, c'est: qu'est-ce que les réponses, au fond, à cette question que nous posons sur pourquoi la modernité élimine-t-elle les paysans, qu'est-ce que ça nous apprend en retour sur la modernité elle-même et sur le devenir des sociétés contemporaines? Alors maintenant, je vais en venir aux principales thèses qu'on essaye de défendre. Alors, un premier axe, on s'est penché sur la notion même de productivisme. Et on l'a interrogé au fond, sous trois angles différents. Interrogation théorique, en fait, d'abord, qui nous a conduit à formuler une définition plus large, et en même temps plus précise, de ce qu'on entend couramment. On a l'habitude de dire le productivisme, c'est le fameux toujours plus, le toujours plus de croissance, et beaucoup utilisent ça, d'ailleurs, qu'ils soient partisans ou détracteurs de la croissance. À nos yeux, le productivisme est un phénomène à la fois plus large, plus précis et beaucoup plus grave que ça. Je fais le résumé, vous retrouverez des éléments dans le livre qui le développe. C'est l'idée consubstantielle à l'esprit de la modernité et du capitalisme que tout, êtres humains, sociétés, produits de la science et de la technique ou des technosciences aujourd'hui, animaux ou nature, pourrait y ajouter en partie la culture d'ailleurs, doit devenir un simple matériau au service de la quête de puissance de l'État et du capital. De plus en plus de l'État et du capital qui sont d'ailleurs dans le même temps de plus en plus réunis. Deuxième angle, on a interrogé la notion de productivisme de façon historique. On revient assez longuement dans le sacrifice des paysans sur la façon dont s'est déployé le projet productiviste. On y revient sur le très long terme, puisqu'on revient même sur l'aube des temps modernes, plutôt dans la deuxième partie, et le phénomène de colonisation, etc. Mais on s'est centré sur la façon dont s'est déployé le productivisme en France dans les 70 dernières années, avec un certain nombre de coups de sonde, en quelque sorte, à l'étranger, mais en se centrant sur le cas français qui, pour nous, est au fond un cas d'école et non pas l'exception que les néolibéraux veulent bien nous raconter. Et ça nous a permis de mettre l'accent, au cours du développement, des réflexions dans le livre, sur différents éléments essentiels au déploiement de ce productivisme. Bon, là, je vais assez vite. On met en avant le projet qui, en fait, monte de l'entre-deux-guerres à la libération d'un idéal de société de troisième voie entre la démocratie libérale d'avant-guerre et les régimes fascistes ou totalitaires. Ce qui veut dire que dans le projet productiviste, il y a en même temps la construction de l'État social, d'un productivisme social au travers des programmes du CNR, par exemple. C'est pour ça qu'on a repris in extenso le programme du CNR. Mais aussi la façon dont, progressivement, ce productivisme s'incarnant, s'instituant à la fois dans la réalité et dans les institutions, va progressivement donner lieu à une socio-économie duale qui sera théorisée dans les années 80 et dont Yves parlera tout à l'heure, qui va ouvrir la voie finalement à la propagation d'un productivisme de type néolibéral, pour simplifier. Au cours de ces 70 dernières années, on revient aussi sur la dimension religieuse du productivisme. Il y a là un certain nombre de paysans qui ont très bien vécu ça, mais on l'élargit à l'ensemble du projet en montrant comment le productivisme a profité d'une sorte de syncrétisme religieux entre les idées marxistes le personnalisme chrétien qui a particulièrement été fort au travers de la jeunesse agricole catholique en agriculture. Et puis enfin, on évoque aussi un point qui est tout à fait essentiel dans l'appareillage et le développement du projet productiviste, sa création historique, c'est les continuités d'une époque dite des Trente Glorieuses à une autre époque que nous connaissons tous aujourd'hui, qui a commencé dans les années 75-80. Nous avons appelé dans le livre les 40 honteuses, donc là, plutôt la société néolibérale. Mais dans laquelle s'inscrit et se développe et dont la matrice est au fond la constitution d'une couche technocratique très très forte et du développement d'une bureaucratie qui va voir son pouvoir grandissant et transformateur de la société, qui est censé piloter la société, que l'on retrouve au fond dès la planification de l'immédiate après-guerre, le commissariat général au plan, qui est encore inscrit dans les idées du CNR, d'un productivisme social, en quelque sorte, jusqu'à la construction de la supranationalité européenne ou, à l'heure actuelle, la dictature à la fois institutionnelle et de fait de la finance globalisée. Et donc, on suit aussi cette ligne-là d'un groupe, au fond, d'une minorité qui, de plus en plus, produit, échafaude et transforme la société. Et enfin, on a interrogé la notion de productivisme au travers d'une interrogation anthropologique. Alors là, résumer rapidement, dans le sillage de Marx, en fait, qui avait vu, je cite, dès le 19e, que la dépréciation du monde des hommes augmente en raison directe de la mise en valeur du monde des choses, ou bien, on reprend aussi les leçons du philosophe Günther Anders sur la bombe atomique, qui disait, à propos d'elle, « La production de moyens est devenue la fin de notre existence et les moyens justifient les fins », nous développons toute une série de réflexions sur, en fait, la fabrication, depuis l'homme consommateur ou l'homo consumeris, comme on l'appelle, à l'homme connecté, des nouvelles technologies, à l'homo connecticus, en fait, de la fabrication qui accompagne le productivisme, d'un type humain, finalement, qui est assez adapté à cette logique, hélas, et à son accélération présente ou future. Et on prend un certain nombre d'éléments au fur et à mesure du raisonnement autour de, on montre comment l'acceptation de l'idée et de du discours de la ressource humaine, l'habitude forcée ou volontaire de la précarité de l'emploi ou de la vie, le pouvoir que la quantification et les chiffres ont acquis dans notre vie personnelle ou dans les débats sur nos choix collectifs, la frayeur ou la en même temps la fascination qu'exercent les technosciences ou le big data, la façon dont se développe un culte de soi, de la performance individuelle, tout ça constitue au fond pour nous les manifestations, les signes d'un type humain qui est au fond adapté, qui se construit en même temps que le projet productiviste général qui le nourrit, même si apparaissent des critiques, mais il le nourrit quand même au bout du compte. Deuxième point qui concerne le deuxième axe de réflexion qui concerne le cœur même du livre. Alors, on y revient un peu, donc la question du sacrifice des paysans, on y revient un peu dans la première partie, comme je viens de le rappeler rapidement, en montrant comment s'insère, en fait, dans la construction historique et générale du projet productiviste, la disparition, transformation du paysan en agriculteur, devenu chef d'exploitation, chef d'entreprise et désormais pour la partie, je veux dire, la plus avancée des industrialistes, les agro-businessmen à la tête de fermes-usines. Voilà, mais on y revient. La première partie est fondamentalement quand même consacrée au projet général. Au projet productiviste général. Dans la seconde partie, ce qui est totalement consacré à cette question du sacrifice des paysans, on a suivi le raisonnement un peu le suivant, on a exploré un certain nombre de clés de lecture ou d'interprétation de cette disparition. Alors, je vais en citer trois, il y en a d'autres, mais c'est pour aller à l'essentiel. Il y a la question de l'ensauvagement des paysans, c'est-à-dire la façon dont on a, durant des siècles et très majoritairement, considéré les paysans et leur société comme des Indiens, comme des sauvages de l'intérieur, qu'il fallait réduire, convertir de gré ou de force à la modernité. Et c'est pour cette raison que nous employons dans le sillage notamment des travaux de l'anthropologue Pierre Clastre le terme d'ethnocide, sur lequel je pense Yves reviendra tout à l'heure. Deuxième clé de transformation et de pour comprendre la disparition, c'est le classement permanent à grand renfort de travaux d'économistes qui sont toujours assez liés au cercle décideurs et des gouvernants, qui a été fait dès l'après-guerre entre les agriculteurs archaïques, traditionnels ou novateurs, et qui en fait a servi de systèmes de tri et d'élimination. Et aujourd'hui, au fond, avec d'autres termes, c'est toujours la même logique qui est en œuvre de classer, trier, éliminer et concentrer. Alors, bien évidemment, les choses ont changé. Le terme de paysan a retrouvé une valeur un peu positive pour certains. Des problèmes écologiques, comme on le sait, sont apparus en masse, mais on va avoir l'agriculteur jardinier de la nature, l'agriculteur qui valorise les ressources touristiques et des terroirs, en langage technocratique ou de la recherche, ça s'appelle l'agriculteur fournisseur de services écosystémiques, qui va avec la marchandisation aussi de la nature. Et puis, il y a l'agriculteur performant, expert, de pointe, de précision, ou celui qui est à la tête, comme je rappelais tout à l'heure, de la ferme-usine. Deuxième idée que nous sur laquelle nous, enfin troisième idée plutôt, que nous explorons pour comprendre le sacrifice des paysans, c'est l'entrée au fond dans les dernières décennies, dans ce qu'on peut appeler une hubris, en reprenant le terme grec, une démesure productiviste illimitée, qui se caractérise par la financiarisation grandissante de l'activité ou du produit agricole, la mise en concurrence mondialisée des producteurs, l'application des technosciences à l'agriculture ou à l'élevage, la robotisation, enfin biologie, je ne fais pas un dessin sur tout ça, je ne reviens pas dans le... la course à la brevetabilité du vivant, etc. Bref, c'est tout cet empire de la technologie et de la marchandise qui s'applique à tous les secteurs productifs, remodèle les hommes, la société et la nature, et constitue... pour en tous les cas, pour les cercles dirigeants, mais aussi, hélas, de nombreux relais institutionnels ou dans la société, ce qu'on pourrait appeler les signes actuels du développement de la science du progrès. Notre réflexion, enfin, position, c'est de dire qu'au fond, quoi qu'on puisse en penser, quelle que soit la force prise par les courants critiques et les lanceurs d'alerte, comme on dit, le paradigme progressiste, l'idole, même un peu écornée, ou très écornée, mais quand même l'idole du progrès et de la modernisation, reste, hélas, des valeurs dominantes, qui sont aujourd'hui véhiculées par une concentration, à la fois par une concentration de pouvoir et d'intérêt très puissant, on pourrait développer, enfin, je ne vais pas redévelopper encore là-dessus pour rentrer dans le détail, on pourra en reparler, mais enfin, en gros, c'est ce que nous savons tous, de toute façon, autour de l'OMC, le FMI, l'Union européenne, et nous évoquons l'idée d'hyperclasse mondialisée. Et en même temps, cette idéologie du développement et de la poursuite du productivisme, elle est aussi assise sur une nébuleuse de représentations qui sont très ancré, intériorisé par la majorité des populations. Quelques exemples, la stupide mais finalement assez efficace opposition entre, vous avez le choix entre la poursuite du progrès ou le retour à la lampe à huile, c'est totalement idiot, mais ça continue et ça marche pas si mal sur un certain nombre de gens. C'est aussi l'éthos du petit bourgeois consommateur, technophile et propriétaire qui a conquis finalement à des degrés divers la quasi-totalité des couches sociales et qui est inséparable de la classe moyenne et de, hélas, souvent de la mollesse de ses comportements et notamment de ses choix politiques. C'est aussi le consentement de certains au déracinement au nom de la mobilité. C'est aussi la recherche d'une liberté sans raison ni politique qui est identifiée au bon plaisir, au divertissement de chacun, ou bien encore une notion qui est à la fois essentielle et équivoque, qui est celle d'émancipation et sur laquelle Yves reviendra sans doute. On revient donc sur cette question du sacrifice des paysans, à la fin aussi de notre ouvrage, en conclusion, en essayant de rassembler, de faire une synthèse de toutes les raisons. On en énonce sept que vous pourrez lire si vous le souhaitez, sept principales qui font que le paysan est au fond un parfait bouc émissaire de la modernité. Je dis bien le paysan et pas l'agriculture productiviste. Hein. Je vais juste pour ne pas être trop long, revenir sur l'une d'entre elles, l'une des sept raisons qui est peut-être plus importante au fond ou plus explicative que les autres et que je vais vous lire assez rapidement. On écrit le paysan et non l'agriculteur productiviste. Incarne l'homme de l'autonomie précapitaliste, de la valeur d'usage et de la petite production marchande, de l'économie encastrée dans le tout social et subordonnée au fait de faire communauté ou société, des moyens et des fins conçus ensemble. Par là, il est l'antithèse de la généralisation de la valeur d'échange et de la monétarisation, de l'homo economicus et du capitalisme productiviste mondialisé, du développement illimité des forces productives, de la production des moyens devenue la fin de l'existence humaine. Il faut en finir avec le paysan parce qu'il est au fond la forme la plus autonome historiquement et d'un pré-capitalisme et de la petite production marchande. Et on pourrait aussi, on le dit à un certain moment, on pourrait le dire autrement en reprenant une formule de Marx qu'on utilise à deux ou trois reprises dans ce livre, en disant que le paysan est celui qui, historiquement, s'est le plus longtemps opposé à entrer, je cite, dans la marmite d'alchimiste du capital, dans laquelle nous sommes tous, de bon gré ou malgré nous, plongés. Et je trouve la formule de Marx, pour ajouter un point qui me semble très important, extrêmement importante, parce qu'il y a bien le terme d'alchimiste. C'est-à-dire que l'alchimiste ne sait pas, il essaye de transformer ce qu'on sait en or, mais il ne sait pas non plus où il va, et il nous emporte en même temps à l'intérieur. Troisième fil qui court dans le livre, c'est la question des alternatives au productivisme capitaliste. Alors, pour mettre des éléments au débat, et qui n'explorent pas toutes ou ne résument pas toutes nos positions, mais qui sont plutôt pour lancer la discussion, en fait, dans ce livre, on est assez critique, non pas tant des actions que des discours un peu excessivement optimistes ou naïfs que tiennent certains, pas tous, hein, écologistes, décroissancistes, colibristes, fidèles ou disciples de Pierre Rabhi. Voilà. Il y a autour de, ou convivialistes, puisqu'on est ici à Caen. Voilà. Alors, pour quelles raisons ? Alors d'abord, pour l'énoncer de manière un peu provocatrice, nous pensons que s'il y a beaucoup d'esprits éclairés, critiques du productivisme dans la nébuleuse anti-croissance, il y a aussi beaucoup, comme on dit, de bisounours dépolitisés, de bobos technophiles, ou de gens qui croient, très sincèrement d'ailleurs, avoir trouvé la bonne solution d'après la fin des grands récits révolutionnaires. En privilégiant je reviens là par exemple sur un exemple autour des colibristes, ils privilégient une révolution, alors ils enlèvent le R, une insurrection des consciences, mais le R est entre parenthèses, une révolution ou une insurrection des consciences individuelles, en appelant chacun, sans souvent aller plus loin dans la réflexion d'ailleurs, à la modification de son comportement de producteur ou consommateur, en faisant miroiter que 1000 initiatives locales, durables, font un changement de société, ou font le changement de société, ou une alternative, ce discours, je ne dis pas, encore une fois, on n'est pas contre les actions mais, ou les initiatives, mais contre le discours qui l'emballe, hein, qui l'enrobe, ce discours est pour nous un petit, comment dire, un côté un peu, à la fois un peu mystique et aussi un peu mystificateur. Non seulement il participe de la une certaine culpabilité ambiante qu'on retrouve beaucoup dans le discours écologiste, c'est vous qui devez changer vos actions, etc., comme si tout cela n'était pas aussi lié à l'offre et à un système. Et il est surtout, je dirais, il y a le côté donc culpabilisateur, mais il y a aussi surtout le côté qui occulte une pensée véritablement politique, c'est-à-dire où on est posé, où est posée la transformation des institutions. Et troisième critique qu'on pourrait faire, mais qu'on peut faire pas seulement là aux colibristes et autres, hein, c'est que toutes ces alternatives éco-citoyennes, pour l'instant, elles ne sont que de très peu de poids face aux forces d'en face, c'est-à-dire celles du capitalisme, des multinationales et des institutions publiques, au niveau local un peu moins, quoique, jusqu'au niveau européen ou supranational qui ont été complètement, pour l'essentiel, colonisés par le pouvoir des multinationales ou de ceux qui défendent leurs intérêts. Après, on fait ce genre de critique, mais on n'est pas non plus, comme l'on dit, complètement démobilisateur ou négatif. Ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'il y a dans toutes ces initiatives quelque chose qui, effectivement, dans cette effervescence citoyenne, dans ces mobilisations contre les OGM, contre les grands projets inutiles et imposés, Notre-Dame-des-Landes et autres, contre les paradis fiscaux, le TAFTA, dans toutes ces initiatives qui veulent, au fond, créer du bien commun, du partage direct, et ou des biens communs à la fois locaux et universalisables, qui promeuvent les idées de gratuité, il y a bien quelque chose qui se cherche autour d'une société, une dynamique qui monte, qui est loin d'être encore suffisante, mais une société post-productiviste et post-capitaliste qui est en train de monter. Et qui, pour l'instant, c'est là l'écueil fondamental, sans doute, qu'elle n'a pas trouvé sa traduction politique, institutionnelle et des modes d'action aussi à la hauteur des moyens et de la violence du camp d'en face. Dernier fil conducteur de notre livre, c'est la Confédération paysanne. Alors nous essayons de lui rendre, au fond, nous lui rendons hommage de deux façons. D'abord dans le prolongement des travaux du sociologue américain Charles Wright Mills et de son livre L'imagination sociologique qui est paru à la fin des années 50 et que j'engage, à mon avis il faut avoir absolument lu, surtout quand on est, enfin je vois qu'il y a des étudiants en sociaux, donc il faut absolument l'avoir lu. On évoque l'idée, en reprenant un certain nombre de ses travaux, que les paysans contestataires qui ont créé la Confédération paysanne ont su qui ont rompu finalement avec le productivisme tout en venant de couches qui l'avaient promu pendant un temps. Ils se sont ils ont réussi à se constituer en acteurs collectifs précisément en faisant ce qu'évoque Wright Mills dans son livre, c'est-à-dire en transformant les épreuves personnelles de milieu qu'ils traversaient, de leur milieu individuel, familial et de la paysannerie, en enjeux collectifs de structures sociales. C'est comme ça que nous, en partie, nous interprétons effectivement tout ce travail énorme qui a été fait. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à effectivement surmonter les divisions internes au milieu agricole ou aux paysans travailleurs eux-mêmes, et que s'est patiemment construit le projet d'agriculture paysanne qui a aujourd'hui essaimé un peu partout, y compris dans ces alternatives dont on parlait, et rencontré aussi nombre d'équivalents étrangers. Et une façon de leur rendre hommage, c'est justement de dire que c'est cette conversion des enjeux, des épreuves personnelles que chacun traverse dans son milieu, de savoir les convertir en enjeux collectifs de travail, en enjeux collectifs de structure sociale, qui est absolument essentiel à faire, qui a été fait par les paysans qui ont formé la Confédération paysanne, mais qu'il faut faire dans tous les milieux, quels qu'ils soient. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que finalement dans l'université, à y réfléchir, justement, ce travail, cette conversion ait été faite. C'est plutôt l'inverse, ce qui s'est passé dans les 30 dernières années, ce qui nous ramène au début de ce que je disais tout à l'heure, à savoir que c'est plutôt les enjeux collectifs de structure sociale qui ont été minorés ou qui ont été absorbés par des épreuves personnelles de milieu, des désirs de carrière, etc. etc. En tous les cas, cette sociologie, cette anthropologie sociologique avec cette visée est absolument essentielle à diffuser un peu absolument dans tous les milieux. Deuxième façon dont nous rendons hommage à la Confédération paysanne, nous revenons sur les valeurs en fait essentielles que ces agriculteurs qui ont souhaité justement reprendre intelligemment et fièrement le nom de paysan, le mot de paysan, les valeurs que ces paysans ont supportées et portent toujours encore et qui pour nous rejoignent ces valeurs ou ont anticipé en quelque sorte les valeurs de la société post-productiviste et post-capitaliste qui se cherche, dont je parlais tout à l'heure. Ces trois valeurs sur lesquelles je vais revenir rapidement, c'est d'abord que les paysans de la Confédération paysanne ont su mettre en avant une très ancienne vertu grecque qui s'appelle la phronesis, qui veut dire la prudence. Prudence dans les investissements, l'endettement ou les systèmes techniques de production, dans la relation du paysan et de l'homme à son milieu naturel, qu'il soit proche ou lointain. Prudence aussi face à l'artificialisation chimique ou génétique du vivant. C'est l'un des messages qui a été envoyé, l'une des alertes en quelque sorte, qui a été envoyée très tôt par cette partie de la paysannerie et qui était d'une certaine façon extrêmement prémonitoire et avant-gardiste de ce qui allait se passer. Autre valeur, ils ont aussi su montrer, dans un milieu qui était pourtant réputé et qui reste toujours réputé pour son individualisme, ils ont su montrer la voie de la solidarité. Valeur qui était depuis un siècle et demi, communément, voire exclusivement, rattachée à l'imaginaire et à l'histoire de la classe ouvrière. Et eux, ils ont développé l'idée d'une solidarité avec leurs voisins directs, qu'ils soient paysans ou non, ruraux ou néo-ruraux, solidarité entre aussi les couches sociales opprimées, quelles qu'elles soient, entre les villes et les campagnes, solidarité aussi au travers de la revendication d'une plus juste répartition des aides publiques à l'agriculture, ou bien encore dans les relations nord-sud, qui va conduire historiquement à la création de Via Campesina, qui est le mouvement social dont on oublie souvent de dire, je pense que Yves y reviendra aussi, qu'il est le plus important à l'échelle mondiale, puisqu'il rassemble plus de 200 millions de personnes. Troisième valeur, qui est donc aussi celle de la société post-productiviste et post-capitaliste, c'est le pluralisme. Pluralisme que les paysans de la Confédération paysanne ont su porter au travers de la diversité culturelle qu'ils ont impulsée dans les campagnes françaises. Pluralisme dans la cogestion de l'agriculture et du monde rural qu'ils ont un temps, la cogestion FNSEA, CNJA ou JIA, qu'ils ont un temps ébranlé, mais qui reste, bon, hélas, dominé par les relations consanguines entre l'État et la FNSEA, mais cette valeur du pluralisme démocratique dans les institutions concrètes de l'agriculture et de gestion de l'agriculture a été portée par ces paysans, a été un combat de longue haleine et continue de l'être. Et pluralisme encore face à la dictature conjointe des institutions supranationales et multinationales que la Confédération paysanne a voulu ébranler et continue de vouloir ébranler. Donc ces trois valeurs, à ces trois valeurs, pour finir, j'en ajouterai une autre qui me semble essentielle et qui nous parle encore, qui devrait nous parler aujourd'hui et j'espère continuera à nous parler dans l'avenir. C'est celle qui s'est incarnée dans l'épisode, on pourrait dire, Averono mondial, qu'a été le démontage du McDo de Millau en 1999 et duquel a découlé aussi dans son sillage la mobilisation contre le planétaire, contre l'OMC, et la naissance, au fond, ou le développement du mouvement altermondialiste. Et il y avait là une quatrième valeur, pas seulement la prudence, pas seulement la solidarité, pas seulement le pluralisme, il y avait là la valeur de la désobéissance civile, qui est essentielle et sans laquelle il ne saurait y avoir aussi de société post-productiviste et post-capitaliste demain. Voilà pour... Et je laisse la parole à Yves.
Bon, alors moi je vais improviser en fait. Pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y a ici des gens dont je veux parler et que je veux présenter ou représenter, et aussi parce qu'il y a des gens dont on m'a dit qu'ils étaient étudiants en sciences politiques. Et donc ces deux choses m'intéressent, je dirais, du point de vue de la connaissance et du point de vue de ce que peut être une réflexion sur l'époque. Donc, voilà, il me semble qu'il y a quelque chose qui se passe, par exemple, dans ce pays, qui veut que les sciences politiques fassent partie des formations les plus prisées maintenant, et que chacun s'y précipite à une époque, justement, où le politique et la politique sont en voie de liquéfaction, comme dirait Zygmunt Bauman, et où sont en train de s'imposer petit à petit l'expertise et la gouvernance, donc qui sont deux concepts cache-misère, dont je reparlerai et sur lesquels je reviendrai, parce que c'est important d'envisager les choses d'un point de vue critique. Alors je vous rassure tout de suite, envisager les choses d'un point de vue critique, ça signifie simplement les mettre en question et recourir à une vieille tradition philosophique et à une, on pourrait dire, une démarche presque inaugurale de la philosophie. C'est l'étonnement devant ce qui est présent, devant ce que nous avons sous les yeux, et qui peut être le produit de tout un tas de conventions culturelles, donc discutables, arbitraires, susceptibles de s'effondrer, etc. Bon, donc, de quoi je vais parler d'abord? Je vais parler des gens qui sont ici, que je vais, si ça ne vous embête pas, nommer et présenter en deux minutes, parce que c'est avec vous qu'on a travaillé pendant 30 ans, et que y a de bonnes raisons au fait que nous ayons décidé de procéder de cette manière, y compris pour essayer de penser la question des rapports entre épreuves personnelles de milieu et enjeux collectifs de structure sociale. C'est une manière de nommer la réalité et de la circonscrire, sans construire une théorie abstraite et englobante, mais qui permette de se représenter les choses et les gens dans leurs interactions, dans des contextes historiques, politiques, technologiques, etc., de plus en plus marqué par une incertitude structurelle et par une crise des représentations et des théories censées rendre compte du monde dans lequel nous vivons. Alors, le monde dans lequel nous vivons, donc, on a essayé de s'en saisir. Là, je parle pour nous trois et pour tous les gens qui sont là. Bon, donc, je vous présente rapidement. Je commence par toi, Michel. Donc, Michel Le Bourgeois, tu as été paysan pendant des années. Tu as été un des fondateurs de la CNSTP. Tu me diras si je me trompe. Hein. Je dis tout ça pour qu'on passe de l'exposé un peu solennel du séminaire à la discussion qui devrait toujours avoir lieu dès l'instant où il est question de parler sérieusement de quelque chose, c'est-à-dire de quelque chose qui advient entre nous dans un échange linguistique aussi indéterminé, donc susceptible d'ouvrir sur des connaissances supplémentaires. C'est ce qu'on appelle l'anthropologie dialogique, c'est-à-dire non pas la sociologie bourdieusienne qui vient de son sommet contempler son objet et traquer les habitudes des uns et des autres, y compris au risque de les culpabiliser. Mais l'anthropologie dialogique, c'est une manière de se saisir de ce que dit l'autre, de ce qu'on peut faire avec lui, pour que nous parvenions à nous étonner respectivement et pour que nous parvenions à élaborer, dans une sorte de dialectique, on pourrait dire hegelienne, un moment supérieur de la résolution des conflits ou des contradictions qui nous permet de penser, encore une fois, où nous en sommes, ce qui nous advient, d'où ça vient, et le cas échéant, qui n'est pas négligeable, qui en est responsable, voire qui en est responsable plutôt que d'autres. La question de la responsabilité, ce n'est pas simplement une sucette dont se serait saisie Hans Jonas ou la tradition de la philosophie morale, c'est une question qui se pose aujourd'hui plus que jamais face donc au désert qui croît et au fait que ce qui est censé nous permettre de résoudre les contradictions ne se présente pas de manière aussi évidente qu'on pouvait le penser à un moment donné, en tout cas pas pour moi. Donc Michel, tu as été un des fondateurs de la CNSTP, on s'est connus je crois en 1975-16-17, voilà. Donc j'aimerais bien qu'à un moment tu interviennes, parce que la CNSTP c'était une composante de ce syndicalisme que nous avons accompagné et qui a fini par donner naissance en 1987 aux Assises Nationales de Bondy, où nous étions présents, comme le disait Pierre, à la Confédération Paysanne. Donc à côté il y a Léon Houry, donc, qui a été, lui, plutôt un des fondateurs de la FNSP, donc de la Fédération nationale des syndicats paysans. Tu me corrigeras, Léon, si je me trompe, qui avait une obédience un peu plus social-démocrate, etc. Si je ne me trompe, Michel, il y avait une petite dimension maoïste dans la CNSTP, avec aussi cette question essentielle de savoir comment on allait faire pour faire en sorte, parce que vous aviez une préoccupation, on pourrait dire environnementale, mais écologiste, et de véritable écologie politique qui était inscrite au cœur de votre action, et en particulier, il était question dans vos projets d'office foncier et de répartition de l'accès à la terre, de responsabiliser celui qui aurait droit à la terre pendant 30 ans, 40 ans, 45 ans, pour en reprendre tout ça. Donc un agriculteur héritait momentanément d'une ferme, d'une terre qu'il devait mettre en valeur et qu'il devait rendre en bon état à ceux qui lui succéderaient après, etc. Donc on pourrait dire qu'il y avait là une sorte de réflexion commune, d'interrogation commune, mais on n'imagine pas à quel point les années 75 et 80 étaient nourries à la fois d'expériences de terrain et de non-mépris pour l'intellectuel, donc à quel point il nous était possible de travailler ensemble. Et à quel point, justement, le fait que nous parvenions à travailler ensemble enrichissait considérablement la réflexion. Donc, Léon, tu as été aussi vice-président national de la section des fermiers et métayers de la FNSEA, tu es passé par la JAC, etc. Et tu as fait appel à nous, avec les gens de Marchésieux, à un moment donné, pour construire, c'est raconté dans ce livre, pour des raisons essentielles, la première, donc, installation de production d'énergie à partir du bois déchiqueté que nous avons donc mis en place pendant 3 ou 4 années, à la fois en étant capable de penser aussi bien comment on évitait que des copeaux de bois soient contaminés par un champignon et comment les stocker, que la question de l'œuvre chez Hannah Arendt. C'est-à-dire que, voilà, on était capable de réfléchir à ces deux choses qui, sur le fond, sont absolument inséparables et qui, quand on les sépare, aboutit à l'impuissance d'un côté et à la gouvernance et l'expertise de l'autre. C'est-à-dire ce qui disparaît toujours, c'est justement la question du concept. Bon, Marie, tu as été aussi paysanne, tu as travaillé avec Léon pendant des années. Léon a été maire de Marchésieux, puis conseiller général, voilà. Bon, on se connaît depuis en gros 1970-15. La première fois que j'ai vu Léon, c'était en 1975 à Marchésieux, et donc nous enquêtions sur le syndicalisme agricole. Ensuite, donc, il y a François Dufour. François, je ne me rappelle plus exactement quand on s'est connus, mais dans ces années-là.
78,
c'est ça. Donc je peux dire que tu as été pendant des années paysan et que tu as été un des cofondateurs de la Confédération Paysanne, que tu en as été pendant des années avec José Bové, porte-parole nationale, que vous nous avez fort dignement représenté à la fois par votre capacité à agir et à penser à Seattle et ailleurs, avec ou sans Roquefort, et que vous êtes parmi les principaux acteurs extrêmement efficaces de ce que de Thoreau à bien d'autres on appelle la désobéissance civile. Et que donc tu continues, que tu as été après vice-président du Conseil général régional, pardon, jusqu'à il y a peu de temps. Voilà, et que nous continuons donc à entretenir quelques liens, même si j'avais un peu disparu du côté de mon Causse et de mon Lot et de mes truffes depuis un moment. Alors ensuite, Michel Vivier. Michel, je souhaitais te rendre hommage. Non, mais parce que pendant les pires années du productivisme, tu étais délégué régional de l'INRA pour la Basse-Normandie et tu avais beaucoup travaillé dans des pays exotiques, comme on dit, et tu avais fait une thèse sur la prairie permanente et d'autres choses, d'autres travaux importants qui montraient que on pouvait effectivement ne pas inventer un modèle intensif avec du maïs sur plastique, avec des aliments de complément, avec des tourteaux de soja OGM, etc. Bon, voilà. Et qu'il était possible de maintenir une population nombreuse dans un territoire irrigué, qu'il était possible de faire des remembrements, etc. Et donc, tu as accompagné pendant une vingtaine d'années. Ensemble, nous avons accompagné. Et nous avons aussi créé un diplôme d'université qui s'appelait Maîtrise de projet et développement rural, où on a eu affaire à des gens qui, pour la plupart d'entre eux, donc avaient fait un brevet de technicien agricole ou peu importe, un BEPA ou un BTSA, etc., ou d'autres choses, des études d'économie, et qui avaient travaillé dans des structures dites de développement et qui ont souhaité reprendre avec nous des études dans ce diplôme d'université qu'on avait créé, donc qui s'appelait Diplôme universitaire, maîtrise de projet et développement rural. Alors, je vais en dire un mot parce que c'était extrêmement important du point de vue de toutes les raisons qui m'ont conduit, là je parle en mon nom propre, avec Pierre et malheureusement sans Pierre Alfandéry, qui a été associé à toutes nos opérations pendant des années, à écrire ce livre. C'est-à-dire, je voudrais redire un mot donc sur la question de la formation. Qu'est-ce que c'est que former des gens aujourd'hui et qu'est-ce que c'est au fond que transmettre des savoirs, transmettre des connaissances? Et qu'est-ce que c'est aussi que de permettre, par une démarche à caractère, qu'on le veuille ou non, encore un peu spéculative, qu'est-ce qui peut permettre à des gens de penser? Pour en revenir à la question, qu'est-ce que penser? Et donc on a monté ce diplôme, et dans ce diplôme, on a essayé donc de fournir à des gens tous les éléments critiques qui leur faisaient défaut, en leur donnant une formation qui pouvait être un peu d'agronomie ou d'agroécologie, un peu de finances publiques, un peu de sociologie, un peu d'anthropologie, un peu de droit rural, un peu de toutes ces choses et un peu surtout de perspective historique, parce que toutes ces choses leur faisaient défaut. Alors à ce propos, je vais lire juste là maintenant un propos d'Hubert Buchou, parce que on a reconstitué l'histoire de ce syndicalisme agricole et de cette période. Pierre a abordé la question du productivisme, mais le productivisme, ce n'est pas simplement une vision du monde, ce n'est pas simplement une conception du monde, c'est une manière spécifique de se l'approprier, et plus exactement de le coloniser, de le mettre en ordre, de se garantir contre toute surprise, contre tout ce qui pourrait venir justement, et c'est ça le fond même de l'affaire, c'est-à-dire c'est l'esprit industrieux. Et cet esprit industrieux, il vient d'un certain nombre d'éléments d'élaboration théorico-politique, on les retrouve dans la Fondation Saint-Simon, on les retrouve dans tout l'imaginaire du Parti Socialiste, y compris dans les textes écrits par Fabius que nous avons repris ici, c'est-à-dire il s'agit bien d'artificialiser ce qui est donné, de se rendre comme non plus comme maître et possesseur de la nature, comme disait Descartes, mais de se rendre maître et possesseur de la nature, c'est de procéder à ce que Heidegger appelle l'arraisonnement. La mise au pas de ce qui est donné. Voilà. Et donc, il faut accepter de savoir que penser ce qui advient, y compris aujourd'hui, du point de vue des incertitudes dans lesquelles nous sommes engagés, c'est accepter d'aller peser du petit bois et voir comment on peut neutraliser l'apparition d'un champignon, mais aussi d'être capable de se demander pourquoi on fait ça. Tiens, pourquoi on fait du petit bois? Pourquoi on fait de la production autonome? Mais pourquoi on le fait comme ça? Pour le faire avec des gens? Pourquoi avec les gens? Dans quel cadre? Etc. Et donc, avec tous les gens que je viens de nommer, je vais venir à toi, Nicolas, et à toi, François, dans quelques minutes. Avec tous ces gens, donc, on a essayé de faire, d'administrer toute une série de preuves, y compris en inventant d'autres formes de formation, que, comme vous le pensiez à la Confédération paysanne, et nous étions là aussi en 93-94, quand vous avez organisé à Saint-Leu les premières assises nationales de l'agriculture paysanne, parce que nous pensions effectivement qu'un autre monde était possible. Alors, cette histoire est très intéressante. Pourquoi? Parce que tout simplement, on présente les choses maintenant, quand on fait des formations ou quand on est censé transmettre des savoirs, on transmet toujours les choses comme si on avait affaire à une sorte de gavage avec des contenus qui ne seraient pas l'objet d'aucune discussion. C'est-à-dire, on formerait objectivement des gens à entendre la vérité. Et donc, on leur transmettrait un certain nombre de connaissances. Tout ça est absolument faux. Nous, on a fait de la programmation linéaire à l'INRA pendant des années. On a vu comment les gens, les économètres et les ingénieurs procédaient. On en a fait. on en a consommé, on en a élaboré, et on a vu ce que c'était qu'une ce qu'on appelle le réductionnisme en matière d'élaboration de modélisation. C'est-à-dire il suffit de ne pas prendre 3 ou 4 facteurs qui gênent le modèle pour pouvoir le faire tourner et arriver à un résultat, pour arriver à quelque chose qui, à la fois d'un point de vue logique et formel, n'est pas faux, c'est-à-dire du point de vue rigoureux de la mathématique ou de la logique, et qui peut être parfaitement erroné, puisque tous les éléments qui vont codéterminer dans la réalité ce dont on est en train de parler en le décomplexifiant, finiront par agir à un moment ou à un autre, c'est-à-dire à montrer qu'ils étaient là, même si on l'a traité du point de vue des économètres comme une externalité, y compris comme une externalité négative ou résiduelle. Bon, il se trouve que négative ou résiduelle, elle fait toujours retour. On la chasse par la grande porte du modèle et de la blouse blanche, et elle revient par la petite du problème écologique, et donc de la pollution ou du cancer environnemental. Donc ces choses, elles sont aujourd'hui parfaitement avérées et on n'arrive pas on n'arrive toujours pas à s'en saisir. Pourquoi ? Parce que, me semble-t-il, plus l'étau se resserre sur l'impasse productiviste, plus ce qui caractérise effectivement nos attitudes en général, c'est le déni de réalité. C'est-à-dire la chose est tellement aujourd'hui difficile à se représenter, c'est-à-dire au fond l'échec de ce que Castoriadis appelle une conception du monde, un imaginaire social historique qui nous a rendus pépères et consommateurs, comme dirait Baudrillard, que le réveil est en effet un peu difficile avec 11 millions de pauvres et 6 millions de chômeurs structurels qui ne retrouveront jamais de boulot, avec un milieu rural absolument dévasté, avec des campagnes désertées et dans lesquelles la moitié des survivants votent pour le Front National sans avoir aujourd'hui la moindre inhibition, parce qu'ils ont compris que ça n'intéressait pas tout le monde, leur sort, etc. Alors, je dis ça avec cette sécheresse parce que c'est un vrai problème politique qui devrait intéresser les étudiants de sciences politiques, c'est-à-dire comment se fait-il que depuis 20 ans, malgré tout ce qu'on entend, eh bien, la progression du Front National soit toutes les structures aussi importantes et inarrêtables. Moi, je me suis beaucoup intéressé, par exemple, au collectif Racine. Vous voyez, bon, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'université en miettes », dans lequel j'ai essayé de montrer que la numérisation de l'université, sa marchandisation, etc., sa caporalisation, etc., bon, produirait un certain nombre d'effets qui seraient un peu problématiques et que quelques esprits chagrins finiraient par se rallier à des positions qu'on considère comme extrémistes. Et donc, il existe un collectif qui s'appelle Racine. Parce que, voilà, là, encore une fois, il y a un problème anthropologique de masse. Dès qu'on a essayé, par exemple, donc avec vous tous, de dire qu'on pouvait vivre dans une communauté ouverte, que cette communauté ouverte pouvait fonctionner sur des principes qui ne recouraient pas massivement à l'artificialisation des milieux ou à la marchandisation des activités. Bon. Ce qui est au fondement de toute l'anthropologie économique depuis ses origines, c'est-à-dire en passant par les textes inauguraux et fondamentaux de Maurice Godelier, qui s'appelle « Rationalité et irrationalité en économie », Godelier, qui était un normalien supérieur, agrégé de philosophie, etc., spécialiste donc d'un certain nombre de populations mélanésiennes, a écrit un livre en 67, vous voyez, donc je conseillerais alors à tout le monde de le lire vraiment, qui s'appelle « Rationalité et irrationalité en économie », où il compare les 3 définitions de l'économie qui étaient à notre disposition dès ces années-là, la définition formelle, la définition substantiviste et la définition marxiste. Et donc, il montre, effectivement, qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont posés par le caractère réductionniste d'un certain nombre de ces définitions. Puis, il y a un tas d'autres travaux qui montrent qu'effectivement, il peut être parfaitement rationnel de produire sans monnaie, etc., etc., qu'il peut être parfaitement rationnel d'organiser la cohabitation de populations sur ces territoires sans exercer une pression démocratique et, démographique excessive, etc., etc. Bon, donc ce qu'on a découvert en faisant tous ces travaux ensemble, à la fois, bon, un diplôme avec une formation, des actions de développement local multipliées, etc., des réflexions tout un tas de directions, c'était qu'il était absolument possible de faire autrement, mais là où le problème commençait véritablement à se poser, c'est qu'une majorité d'individus ne souhaitait pas et ne souhaite toujours pas qu'on fasse autrement. Par exemple, nous sommes ici dans un espace qui n'est constitué que d'éléments issus du pétrole et donc du productivisme. Tout ça, c'est le productivisme. On est en plein dedans. Bon, mais ça n'intéresse personne, ou personne ne se rend même compte de ce que nous sommes ici, dans un univers totalement issu du pétrole. Bon, donc voilà. Alors après, donc on a essayé de faire ça, et puis, bon, il faut reconnaître qu'il y a eu énormément de mobilisation, et je me rappelle qu'en 1993, lors de ces assises nationales, vous nous aviez demandé à Alfandéry et à moi d'être un peu vos conseillers pour préparer cette réunion, et vous aviez dit, on pourrait peut-être essayer de trouver un certain nombre de gens qui pourraient être intéressants pour dialoguer avec nous. Il y avait des paysans qui venaient de partout, du Mexique, je crois, si je me rappelle bien. Il y avait le PDG de l'INRA, donc Chevassieu Louis. Il y avait Jean-Christophe Kroll, donc le seul économiste présentable, c'est-à-dire qui soit capable de mettre un peu en critique ce que tout le monde tenait pour acquis, ce qui était une démarche de connaissance plutôt quand même acceptable. Et puis, il y avait Marie-Angèle Hermite, donc, qui est spécialiste de la brevetabilité du vivant et qui était l'épouse donc d'un maître de conférence à Sciences Po qui s'appelait Bernard Edelman, qui était lui-même un spécialiste de la brevetabilité du vivant. Et Alfandéry et moi avions proposé qu'on fasse venir Alain Finkielkraut. Et je me rappelle qu'au début, ça avait un peu tiqué, parce que vous aviez dit, mais pourquoi un philosophe, etc. Et c'est vrai que Finkielkraut, à l'époque, s'intéressait beaucoup à la question des paysans, et pour un tas de raisons qui sont aussi extrêmement savantes. Parce que, une des raisons pour lesquelles moi j'avais souhaité qu'il vienne, c'était parce que Alain Finkielkraut, bon, qui est un très très grand lecteur d'Hannah Arendt et de quelques autres, enfin d'Hannah Arendt en tout cas, se poser la question effectivement de « un autre monde est-il possible ?» et se poser la question de la démocratie, de la désobéissance civile, de la démocratie directe, de comment on pèse pour faire advenir autre chose en accompagnant la voie démocratique de la négociation et de la réfutabilité des arguments, tout en étant capable donc de se faire entendre. Et pourquoi j'avais proposé ça? C'est parce que, en fait, et là je vais venir à un point qui est important pour moi, parce que, en fait, la question qui se posait lorsque nous étions là-bas, je crois qu'on était à peu près 1000, c'était la question donc de l'avenir. Et les paysans avaient encore à ce moment-là, je vais dire les paysans, tous ceux qui accompagnaient ce mouvement, avaient encore à cœur à ce moment-là, et c'est un problème fondamental, de démontrer, et ça ne les a pas quittés, parce que j'ai fait plusieurs interventions là dans les semaines qui viennent de s'écouler, avec des paysans, ils avaient pour, comment dire, presque préoccupation morale et ils vivaient presque comme une nécessité de nous démontrer à nous, alors qu'on travaillait ensemble depuis 15 ans, qu'ils étaient de bons techniciens. Et là, il y a un problème absolument incroyable, c'est-à-dire qu'il connaît son symétrique absolu. J'écoutais l'autre soir une émission sur France Culture, donc qui était sur les docks, et cette émission était enregistrée auprès de gens qui avaient été productivistes dans les années 60 à 70. Et alors, c'était incroyable d'entendre leurs paroles. C'est-à-dire, c'était vraiment une parole de l'impuissance, mais incroyable, où ils disaient tous... Ben voilà, bon, une histoire que vous connaissez parfaitement, je parle de vous tous là, puis peut-être d'autres que je ne connais pas, mais cette histoire c'est toujours la même, c'est-à-dire, il disait, on voyait arriver le technicien de la chambre, etc., et puis le gars du Crédit Agricole qui disait, mettez ça, c'est bon pour ce que vous avez. Hein. Bon. Et donc, il disait, eh ben, comme on voulait y arriver, comme on voulait être sûr, eh ben, on doublait la dose, et de temps en temps on triplait la dose. Et tout ça a été raconté depuis 1965, et c'est ce que j'ai entendu encore il y a 3 jours, sauf que les gens ont maintenant 80 ans au lieu d'en avoir 35 comme ils avaient à l'époque. Et donc cette espèce de chose est absolument incroyable, c'est-à-dire c'est la manière dont on est pris aujourd'hui dans une conception du monde qui se parle de manière essentiellement matérielle et technique. C'est-à-dire c'est notre emprisonnement par, là je fais du Heidegger sans le dire, par le discours de la technique qui atteint aujourd'hui du point de vue de l'aliénation et de la réification des dimensions absolument incroyables. C'est-à-dire on ne s'imagine plus que pour pouvoir faire quelque chose d'autre, il faut d'abord le penser. Il faut d'abord le concevoir. et que le penser et le concevoir, c'est parvenir à se représenter comme acteur collectif sur cette scène indéterminée qui est l'histoire, comme dirait Castoriadis. Voilà, c'est-à-dire il y a un monde. Et à l'intérieur de ce monde, il y a des gens qui veulent continuer à produire, à poursuivre l'industrialisation de l'élevage. José Bové t'a envoyé un mail il y a 2 jours, c'est ça hein, que tu m'as transmis, dans lequel il disait qu'il était en Espagne et qu'on était en train d'y construire une ferme de 20 000 vaches.
Alors, Castille, en Castille et
c'est ça, voilà. Donc une ferme de 20 000 vaches. Alors, vous n'avez qu'à mettre 5 ou 6 colibris autour du machin et vous allez voir si ça va faire vibrer d'une manière ou d'une autre cette extraordinaire puissance du déploiement industriel. C'est-à-dire un fait est un fait. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Bon, dans ce livre, nous écrivons que les Chinois sont en train de construire des ateliers de 500 000 porcs. Vous voyez bien, 500 000 porcs. Et c'est pareil, il y a des ateliers à 50 000, 60 000 en Pologne, en Allemagne, etc. Bon, tout ça, il suffit de le regarder pour le savoir. Le problème, c'est que c'est tellement démesuré, pour revenir à la question de l'hubris dont on a voulu parler là tout à l'heure, c'est tellement démesuré que personne n'arrive à se dire qu'il pourrait s'opposer à la chose. C'est un peu comme disait Günther Anders, que quand on se trouve devant une centrale nucléaire, on préfère, disait Günther Anders, la trouver. Enfin, à l'époque, on n'avait pas les problèmes d'islamisme radical qu'on a aujourd'hui, mais Günther Anders, il disait qu'on préférait trouver le toit d'une centrale nucléaire aussi innocent que celui d'une mosquée. Bon, c'est pour ça que je disais, surtout chez les salafistes, les choses ont bien changé aujourd'hui et le problème est de plus en plus entier. Mais juste pour en venir à cette question du penser, du détour par la théorie et donc d'un propos qui peut intéresser aussi les étudiants de sciences politiques, je voudrais, mais c'est aussi pour faire plaisir, énormément plaisir à mon ami Stéphane Corbin, parler de Marcel Gauchet. Ce qui ne surprendra personne, mais voilà, Marcel Gauchet, donc vous le connaissez, vous ne pouvez pas ne pas le connaître, il est aujourd'hui donc une des références les plus importantes de la pensée philosophique et des études aussi de sciences politiques. Alors Marcel Gauchet, j'en dis quelques mots pour dire les choses de façon un peu profonde et sérieuse, parce que, comme Pierre le sait quand on en a discuté, une des décisions qui fait que j'ai été tout à fait enthousiaste pour qu'on s'embarque ensemble dans la rédaction de ce livre, c'est que cette histoire de Gaucher est toujours restée pour moi un mystère, et je vais y venir en quelques mots simplement. Bon, quelques mots simplement pour dire que les choses ne viennent pas de rien, c'est-à-dire, par exemple, l'agriculture productiviste ne vient pas de rien. L'agriculture productiviste, elle a été encensée, encouragée par un tas de gens, qui ont eu des responsabilités politiques, énormément de gens, mais aussi elle a été encensée par des intellectuels. Mais comme plus personne ne lit Gramsci, personne ne sait ce que c'est qu'un intellectuel organique, un intellectuel traditionnel, qui est qui fait quoi dans le jeu des pouvoirs, des incertitudes, des négociations, de l'obtention des Marocains, de l'élaboration de la dernière théorie considérée comme juste, etc. Mais donc j'en reviens à Marcel Gauchet. Donc deux mots quand même pour ceux qui le connaissent moins bien que moi, d'une certaine manière. Donc j'ai eu le bonheur, mon cher Stéphane, comme tu sais, mais c'est une sorte de connivence entre nous, mais j'ai eu le bonheur donc d'être étudiant pendant 3 ans avec Marcel Gauchet. Et Marcel Gauchet donc se présente aujourd'hui, comme beaucoup de gens, vous savez qu'aujourd'hui, donc il y a quelque chose qui est extraordinaire dans ce pays, qu'on appelle le storytelling d'un côté et qu'on appelle aussi le révisionnisme en histoire d'un autre côté. Et donc Marcel Gauchet se présente aujourd'hui, son meilleur ami c'était Jean-Pierre Le Goff, donc qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Malaise dans la démocratie, et moi j'étais là en même temps qu'eux et de quelques autres.
Là, à Caen?
Oui, ici à Caen, oui, là. Enfin, ça n'existait pas. C'était là-bas. Voilà. Et donc, pour le dire en deux mots, on était 14 étudiants dans le département de sociologie, mais très actifs. Et donc, il y en avait un autre qui s'appelait Paul Lyonnais, donc qui est resté aussi ami avec Gaucher et Le Goff. Voilà. Et donc, à un moment donné, bon, Gaucher est parti dans son grand parcours, etc., disant qu'il était un disciple de Lefort et de Pierre Clastres. C'est quand même assez intéressant qu'il se revendique comme disciple de Pierre Clastres. Et puis, il a écrit donc un certain nombre de livres. Et il a écrit un livre dans lequel il a essayé d'expliquer que le christianisme, en fait, c'était la religion de la sortie de la religion. Alors, bon, ce qui est quand même assez intéressant, bon, parce que là, il y aurait effectivement deux choses à l'intérieur du christianisme qui nous permettraient d'adopter cette position. La première serait que le christianisme serait une religion de pacification universelle qui nous, d'une certaine manière, inciterait à voir dans l'autre un prochain. Bon, voilà. Et que donc, du coup, on pouvait aussi ne pas se désintéresser complètement des choses du monde et s'intéresser aussi à la question du développement, et du développement de l'économie et du développement. Et de là, donc, va venir tout ça redigéré par la Jacques et un certain nombre de représentants de l'Église. Tout ça va devenir donc quelque chose qui va inciter les producteurs à produire de plus en plus et donc à s'intégrer dans la dynamique de développement économique de l'agriculture et de l'intégration, et donc qui va permettre aux paysans de cesser d'être des paysans parce qu'ils présentent un certain nombre de caractéristiques qui devraient être éradiquées. Et je pèse le mot, voilà, je dis bien éradiquées. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Marcel Gauchet va parler donc de l'entrepreneur et sa agriculture. Donc, je vous cite juste ce petit texte parce qu'il m'a fait bondir et je trouve qu'il mérite une discussion pour des étudiants qui sont en sciences politiques. Donc, Gauchet écrit ceci. C'est dans un texte qui s'appelle « Pleurer les paysans ». C'est paru dans la revue Le Débat, dans un numéro spécial de 1990. Les capitalistes prospèrent, les bureaucrates prolifèrent, mais du moins sur nos vieilles terres de l'Europe de l'Ouest, l'extension du dernier paysan est pour bientôt. Je parle du vrai paysan, issu d'une lignée ininterrompue de paysans, enraciné dans un sol et dans une communauté, pénétré de l'héritage d'une civilisation millénaire, et non pas de l'entrepreneur et sa agriculture qui va lui succéder, fort délesté celui-ci pour arpenter le même sol, de ce lourd bagage du passé. Je termine. Le citoyen qui aspire à la cité meilleure ne peut lui que se réjouir, dans le même homme, de voir s'éteindre l'une des espèces les plus irréductiblement rebelles à l'esprit authentique de la démocratie. Il est une empreinte irréversible de la domination, et c'est elle qui constitue le paysan. Voilà la terrible vérité qui a échappé aux célébrants niais de la convivialité villageoise. Bon, moi c'est vrai que quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, c'est pas possible, il a eu un coup de sang, Marcel, ou il a pris, je sais pas, un coup de soleil, ou vraiment, bon. C'est un texte qui est quand même absolument incroyable, d'une violence absolument incroyable. Et en fait, bon, en y réfléchissant pendant des années, c'est-à-dire en gros de 1990 à 2016, je me suis dit qu'il fallait vraiment donc réussir à faire un travail qui montre comment tout ça, ça vient bien de quelque part. Et ça vient effectivement de tout ce qu'on a déjà fait aux sauvages et de tout ce qui est avec le christianisme, avec l'esprit des conquêtes, avec la soif de l'or, etc., du XIVe siècle jusqu'au XXe siècle, donc a nourri le développement de ce que on appelle quelquefois le capitalisme. Alors, je dis capitalisme avec une jouissance quasi perverse, parce que ce mot est considéré comme totalement démonétisé, comme on dit aujourd'hui dans les milieux bien informés, c'est-à-dire l'idée même que Marx ait été un génie, l'idée même qu'il faille absolument aujourd'hui plus que jamais relire ou lire les trois livres du Capital, ce que nous avons fait, ce que nous sommes un certain nombre à avoir fait, en fait, il n'existe pas aujourd'hui sur le marché de la théorie économique de démonstration plus convaincante que celle de Marx sur l'origine de la valeur que celle qui est produite dans le Capital, qu'il n'existe pas de théorie pour expliquer l'origine de la valeur plus pertinente, plus convaincante que celle selon laquelle, dans sa critique de Ricardo, il montre que l'ouvrier ne vend pas son travail, mais sa force de travail, c'est-à-dire la capacité qu'a le temps de travail, le travail qu'il accomplit dans une journée, à créer plus de valeur qu'il n'en recevra, etc., dans le paiement de son salaire. Bon, toutes ces choses, on le voit partout sur la planète, n'ont pas pris une seule ride. Et on voit bien comment il se passe exactement la même chose pour déraciner le paysan. C'est-à-dire que c'est exactement la même logique qui fonctionne. Donc en fait, l'évolution de ce qu'on appelle le productivisme conduit nécessairement, sauf à être contrecarré par une critique politique, à une transformation des paysans en ouvriers ou en petits employés, etc., et après des ouvriers en robots. C'est-à-dire ce qui est là en train de se mettre en place, mais que n'importe qui peut vérifier en regardant n'importe quelle étude sur ce qui se trame dans la Silicon Valley et ailleurs, et à Minatech à Grenoble, c'est-à-dire ce qui est en train de se mettre en place, c'est la robotisation de toutes les activités de production, d'objets, etc., etc. Bon, donc cette chose, elle est là, et elle passe aussi par l'industrialisation de l'élevage, et encore une fois, je vous dis, on est en train de... on a construit un atelier de 500 000 porcs en Chine. Alors, il y a un excellent petit livre qu'il faut lire aussi, c'est un livre qui a été traduit par une femme avec laquelle je travaille, qui s'appelle Célia Izoard. Célia Izoard, c'est une philosophe donc, qui a travaillé avec Biagini, notre éditeur, sur l'emprise numérique, aussi avec Guillaume Carnino, aussi avec François Jarige, sur les ludites, les mouvements briseurs de machines, etc. Bon, et qui a traduit un tas de textes extrêmement intéressants à lire sur les prémices de la robotisation et donc de la déconstruction de toute forme d'autonomie, d'échange direct entre personnes. Tout ce qu'on essayait de mettre en place dans les années 70, 80, 90, au travers donc des initiatives qui étaient prises un peu partout. Et donc, ce qui est en jeu dans le propos de Gaucher, c'est quand même cette idée, bon, qui, dès qu'on y réfléchit, aurait dû quand même susciter quelques réactions. Bon. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que j'ai dit à une vingtaine de gens, pendant ces 25 ans, vous devriez quand même lire ce texte de Gaucher, il donne à penser, quoi. Bon, et alors, j'ai essayé d'expliquer qu'il y avait un autre penseur qui s'appelle Alain Brossa, qui est un bon connaisseur de la philosophie politique aussi, qui a écrit un livre, donc, après avoir dirigé la thèse d'Olivier Razac, que je cite dans ce livre, sur l'histoire du fil barbelé, en effet, l'histoire du fil barbelé qui va de l'après-remembrement jusqu'au camp d'extermination et qui court dans tous les régimes totalitaires et dans toute forme de déracinement contraint et donc d'expulsion, d'éradication, etc. Et donc, on peut penser, comme l'a montré Brossa en effet, qu'il y a du point de vue de l'imaginaire démocratique, je dis bien du point de vue de l'imaginaire démocratique, tel qu'il va cohabiter avec le développement du capitalisme, ce qu'on appelle aujourd'hui le marché. Le marché, ça ne mange pas de pain, bon, c'est un truc un peu comme ça, ben, y a le marché, et puis voilà. En fait, c'est le capitalisme, en ce sens, c'est aussi un mode d'appropriation de la nature, c'est aussi un mode d'organisation de la division du travail, et que c'est aussi un mode de domination politique, cette chose qu'on appelle le capitalisme. Donc c'est pour ça qu'on en parle sous forme d'un système. Et qu'il y a donc, dans ces présupposés même de l'idéal démocratique tel qu'il va s'instituer à partir du XVIe-XVIIe siècle, quelque chose de fondamental qui est qu'il est considéré de manière définitive qu'il y a des gens qui sont inintégrables dans l'univers de la démocratie. C'est ce qui est dit, pas dit, écrit, fort heureusement. Parce qu'on pourrait dire, j'ai jamais dit ça. Hein. Le citoyen qui aspire à la cité meilleure ne peut lui que se réjouir dans le même homme de voir s'éteindre l'une des espèces les plus irréductiblement rebelles à l'esprit authentique de la démocratie. Alors, je vais m'arrêter là pour adresser quelques questions donc aux gens qui sont ici. Moi, ce qui m'a frappé, en effet, comme Pierre l'a dit dans la présentation de la synthèse qu'il a proposée, c'est qu'on a effectivement essayé de montrer que la Confédération paysanne, c'était justement, et c'est ça qui est absolument incroyable et qu'il faut essayer de comprendre, la Confédération paysanne, c'est ce rassemblement hétéroclite, ouvert, mesuré, qui a réussi à forcer la porte d'une chose quand même étonnante. Quelle est cette chose étonnante? C'est que tous ces entrepreneurs et s'agriculture, dont fait l'apologie Marcel Gaucher, par ailleurs considéré comme le plus grand penseur de la démocratie, eh bien, tous ces entrepreneurs, tu pourras me contredire, hein, tous ces entrepreneurs et s'agriculture, ils sont tous issus de la FNSEA et du CNJA. La FNSEA, c'est quoi? C'est une espèce de rassemblement qui est issu directement de la Corporation paysanne et du régime de Vichy. est non seulement issu de la corporation paysanne et du régime de Vichy, mais qui s'est toujours opposé, je parle toujours de la FNSEA et du CNJA, qui se sont toujours opposés à l'existence du pluralisme syndical qui a été gagné de haute lutte par les paysans eux-mêmes. Paysans dont on dit qu'ils sont irréductibles des adversaires, irréductibles de la démocratie. Donc il y a là, si vous voulez, quelque chose d'assez intéressant à considérer. C'est-à-dire que 3 ans après la naissance de la Confédération paysanne en 87, après sa reconnaissance comme constitutive de l'espace public, Marcel Gaucher dit « Les paysans sont absolument irréductibles à l'esprit de la démocratie ». Or, justement, ce qui faisait la caractéristique de la Confédération paysanne, c'est qu'elle persistait à s'appeler « Confédération paysanne ». Et en disant « On n'a pas à rougir de l'utilisation de ce terme, nous nous y reconnaissons dans un ensemble d'héritages, etc. etc. » Bon, donc, en fait, ils ont été mis à l'extérieur par Marcel Gaucher, et qui a donc considéré que, voilà, ils étaient inintégrables dans cet univers de la démocratie. Donc, une des thèses qu'on a défendues dans ce livre aussi, c'est que ce qui s'est instauré à partir des années 80, je vais m'arrêter là, on va pouvoir en rediscuter si vous le souhaitez, c'est une socio-économie duale, que cette socio-économie duale, elle était appelée de ses voeux donc, par un certain nombre de hauts fonctionnaires. Donc je cite juste les deux hauts fonctionnaires en question, donc qui s'appellent Jean Amado et Christian Stoffaes, et qui ont écrit un rapport en 1980 qui leur avait été commandé par Giscard d'Estaing et qui a été consommé par François Mitterrand. Donc en fait, voilà, il y avait un certain nombre de gens, dont le bien-aimé Pierre Rosanvallon. Il n'y avait pas encore la Rotoroue. Je dis ce nom au hasard, dont le bien-aimé Pierre Rosanvallon, donc qui considérait que risquait de se développer une socio-économie duale. Et donc, une socio-économie à deux vitesses. Alors, pour Amado et Stoffaes, donc, il fallait donc prendre un certain nombre de mesures. Alors, je vous laisse savourer ce petit passage d'Amado et Stoffaes, parce que pour moi, tout ce qui était là présenté comme devant être fait a été fait et que nous sommes en train de le consommer. C'est le sens, écrivait-il, qu'il faut donner au concept de socio-économie duale, celui d'une société divisée volontairement en deux grands sous-ensembles d'activités et d'individus complémentaires et différents. On a déjà la gauche plurielle en gestation, là est le développement local et le développement durable. D'une part, alors là, c'est pour le haut du panier. D'une part, un sous-ensemble adapté aux technologies nouvelles, intégré à l'espace mondial, fait d'hommes modernes, aptes à manier l'informatique et les techniques de pointe, ainsi que les langues étrangères. Bon, là, vous avez le modèle tel qu'il a été parfaitement réalisé à partir du tournant que l'on qualifie de libéral, c'est un mot fort, à partir de 1983, voilà. Et d'autre part, dit-il, et là on a aussi, donc on peut avoir tous des exemples en tête, d'autre part, un sous-ensemble incarnant l'héritage de nos traditions culturelles, constitué d'organisations isolées de la concurrence internationale, faisant pénétrer plus lentement les technologies modernes, d'institutions de distribution, d'hommes moins mobiles, d'un revenu moindre, mais d'un mode de vie plus convivial et plus classique. Voilà. Pour ceux qui douteraient que la politique, c'est aussi un projet, que ce projet est institué, qu'il fait l'objet d'une élaboration collective par le biais d'experts, qui sont souvent inspecteurs des finances et énarques, et puis qu'on y revient toujours et que ça se met en place, que ça passe dans les tuyaux, d'administration en administration jusqu'au niveau local, eh bien, je pense que la preuve est administrée que, voilà, il n'y a pas eu de hasard, et il s'est passé ce qui devait se passer. Nous vivons bien aujourd'hui, plus que jamais, dans une société à deux vitesses, et nous sommes bien donc dans cette situation où la dynamique qui était engagée par la Confédération paysanne a été extraordinairement ralentie. Bon, deux petits mots pour terminer. Nicolas donc est biologiste et membre du CRIGEN. Je suis membre du CRIGEN aussi. Le CRIGEN, c'est donc le Comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique, qui a essayé depuis des années et des années, avec Corinne Lepage, avec Jacques Testard qui nous a rejoint, avec Christian Vélo, avec un certain nombre de gens, d'évaluer au fond la question des OGM sur un plan strictement scientifique dans le cadre d'une expertise indépendante et qui a été évidemment accusée d'être un repère d'obscurantiste, d'irrationaliste, voire de néo-mystique, voire etc., etc., et qui donc a essayé de s'affronter à Monsanto qui vient d'être racheté par Bayer, etc. Donc le processus d'artificialisation se poursuit, le processus d'intensification se poursuit, le processus de disparition des paysans se poursuit. Je vous signale que, d'après les statistiques, entre 450 et 600 se sont suicidés l'année dernière, et que donc il y a eu, il n'y a pas longtemps, à Sainte-Anne-d'Auray, un paysan qui a organisé des obsèques symboliques pour ces 600 paysans. Et donc, ce que je dirais pour terminer, c'est que voilà, nous sommes à un moment où un certain nombre de gens se prennent à espérer que d'autres choses sont possibles, etc. Que mon voisin et ami Pierre sera peut-être un tout petit peu plus optimiste que moi, ou en tout cas qu'il pourra considérer qu'il y a dans cette extraordinaire multiplication d'effervescence des raisons d'espérer. Quant à moi, je suis infiniment plus sombre, c'est-à-dire je pense, mais simplement ça, que la vitesse de destruction pour des raisons consubstantielles aux nécessités de son développement du monde par le capitalisme aujourd'hui est beaucoup plus rapide que la capacité des contre-pouvoirs à lui opposer de contre-feu. Donc voilà les nouvelles de mon point de vue. Oui, je n'ai pas parlé de toi, François, donc... François était journaliste à West France et donc aussi sociologue, et tu as suivi aussi toute cette période pendant 25 à 30 ans donc de l'évolution du productivisme en agriculture et voilà.
Merci à tous les deux. Merci. Pour votre attention.